C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Après avoir lu les courriels, puis entendu les analyses, les commentaires, tu regardes la situation et t'essaies de rationaliser. Puis, on est tous dans des situations différentes. Quand on est un restaurateur, on l'a sur la gueule. Quand on est parent puis qu'on doit gérer le déplacement de la rentrée au mois de janvier, gérer les cas de COVID, ça vient s'ajouter à un fardeau. Les gens qui partent en vacances sont déçus, pour pas dire autre chose. Mais quand on regarde ça, puis avec toutes les critiques qu'on peut avoir à l'endroit du gouvernement, notamment au chapitre des communications, il faut garder, je pense, puis vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas me faire dire comment me comporter par l'État. J'ai pas besoin du gouvernement pour essayer de me faire une tête sur des événements, comme vous n'avez pas besoin d'entendre ce que je vous dis pour faire une tête aussi. Mais il me semble qu'on doit essayer de regarder les faits. Et les faits, puis ce matin, je vais vous donner deux ou trois exemples de ça. Quand on regarde le variant, ce nouveau-là, Omicron, c'est à peu près clair que ça double à tous les deux jours dans les pays où le variant est déjà très présent. Et on voit les cas en Grande-Bretagne, c'est 200 000 personnes qui ont été infectées par ce variant, et c'est à peu près la situation chaque jour, là. Et ça cogne au Royaume-Uni. Le Danemark double ses chiffres à peu près aux deux jours. Donc, ce variant existe, il est contagieux, il se déplace rapidement et fait beaucoup de cas positifs. Le docteur Alain Vadeboncœur a donné un exemple avec un tableau sur les fameux contacts. Puis je trouve ça intéressant quand on parle de la fameuse transmission aérienne. Par exemple, quand on passe de 20 personnes dans un rassemblement à 10, c'est ce qui a été décidé par la santé publique, on passe de 190 contacts à 45 potentiels, 4 fois moins. Quand on passe de 10 à 5 personnes, on passe de 45 contacts en moyenne à 10. Donc, moins il y a de monde, c'est sûr qu'il y a moins de contacts. Puis moins il y a de contacts, moins il y a un risque de propagation. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le troisième, quand vous regardez la vaccination au Québec, actuellement, si on prend les 5 ans et plus, donc toutes les personnes qui ont droit au vaccin, là, c'est un taux de vaccination de 81 % pour ce qui est des gens qui ont reçu deux doses. Puis là, les enfants, ils doivent attendre parce qu'ils viennent de recevoir la première dose. Donc, on est au-dessus de 80 % de gens qui sont vaccinés au Québec, ce qui est exceptionnel. Puis, on sait que le variant, le nouveau, fait des victimes dans le sens contamine des gens qui sont doublement vaccinés. Et on le voit partout dans le monde. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit deux choses. Que le vaccin, même avec deux doses, perd de son efficacité, limite les dégâts, et d'entrée de jeu, le variant serait moins agressif et laisserait un peu moins de séquelles. Ça reste à déterminer, je vous le rappelle, mais en tout cas, ce sont des impressions qu'ont beaucoup de chercheurs jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire que si vous êtes doublement vacciné, vous pouvez quand même attraper ce variant-là puis avoir des symptômes. La preuve de ça, dans tous les cas qui ont été annoncés depuis deux jours, là, les 2000 puis les 3000 cas qui nous arrivent, pour garder les hospitalisations jusqu'à maintenant, c'est relativement stable. Ça veut dire que beaucoup de gens l'attrapent, mais peu de gens ont des symptômes graves. D'où l'importance d'aller chercher peut-être justement cette troisième dose qui va augmenter la protection. Et pour ceux qui en doutent encore, je regarde le tableau, le fameux tableau. Les gens non vaccinés, le risque d'hospitalisation est 15 fois plus élevé que les autres. Ça ne veut pas dire que les vaccinés n'iront pas à l'hôpital. Ça veut dire que si vous n'êtes pas vacciné, vous avez 15 fois plus de chances d'attraper la maladie puis d'avoir des conséquences plus sérieuses. Et c'est clair qu'avec un virus qui se promène comme ça, les non-vaccinés sont vulnérables. Et si les projections sont réalistes, ça veut dire quoi? À 15 fois plus de chance? Bien, plus il va y avoir de cas, plus on va se retrouver avec des non-vaccinés dans les hôpitaux qui vont occuper des lits, qui vont demander des soins, puis on va pénaliser d'autres citoyens. Ce bout-là, perso, m'énerve. Je vous le dis d'entrée de jeu. On peut respecter les hésitations, les questionnements. Le Dr Weiss disait cette semaine, les gens qui refusent le vaccin, on peut comprendre, puis on peut accepter de discuter. Puis là, je parle pas des anti-vax là, qui voient un complot, puis toutes les théories fumeuses là, qui accompagnent ce genre d'argumentaire. Mais moi, je pense au personnel de la santé. Je pense aux gens qui sont dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée, qui sont épuisés, puis qui voient défiler des patients comme ça, puis dans certains cas, qui disent le regretter, ça vient comme ajouter. Puis il y en a même au sein du réseau de la santé qui ne veulent pas être vaccinés. Puis il y en a même qui ne veulent même pas être testés, qui ont perdu leur job. Essayez de comprendre ça. Alors, voilà pour ce qui est du tableau. Comment le virus se promène, puis les projections laissent croire que ça va à toute vitesse. Alors, quand ça va à toute vitesse, Québec met le pied sur le frein. On n'arrête pas tout, mais on diminue les activités. Qu'est-ce que ça veut dire? François Legault a dit hier, je suis tanné autant que vous autres, mais on va réduire la fréquentation à 50 % de la capacité pour les restaurants, les magasins qui ne sont pas essentiels, les salles de spectacle, le Centre Bell, hier c'était à huis clos, mais là, on va ramener ça à 50 du moins pour le moment. Pas de party de bureau, pas de karaoké, les bars, etc. Masque à l'école et vacances prolongées pour ce qui est des élèves qui sont au secondaire. Pour les lieux de culte, ça va prendre le passeport vaccinal, puis on va limiter le nombre de personnes. Puis pour ce qui est des rassemblements, c'est 10 personnes. Puis encore là, c'est une question de jugement. Puis si je me fie au courriel que vous m'envoyez, là, hier soir, je pense que plusieurs Québécois ont réaménagé leur horaire puis le calendrier de festivités. Puis ça demeure un choix, celui de dire quel est mon niveau de risque acceptable. Puis j'ai-tu le goût d'être seul avec ma conjointe, mes enfants? Est-ce que j'ai le goût d'être 5, 6, 7, 8 personnes? Et à combien de reprises durant la période du temps des fêtes? Ça m'apparaît, c'est sûr, là. On se contera pas d'histoire, c'est frustrant, puis on en jase entre nous dans l'équipe tous les jours, tu sais, de se dire on revient à la case départ, puis tout ça. Puis en même temps, vous avez des experts qui disent que cette vague de la pandémie va être probablement la vague qui va frapper le plus fort en termes de cas, pas en termes de gens extrêmement malades, mais en termes de cas, il va y en avoir beaucoup. Et je vous le dis, depuis quelques jours, je regarde aller le gouvernement en termes de communication, puis j'ai bien des irritants, parce que on n'a pas découvert ça hier, là, que ce variant était explosif. On regardait l'Europe, puis on était capable, je pense, d'anticiper ce qui s'en venait. Alors, quand tu fais miroiter aux gens qu'on va avoir 20 personnes, puis peut-être 25, comme le dit le premier ministre, on ne peut pas, pardon, strictement venir dire « ben, je peux changer d'idée ». Puis c'est correct là, que le gouvernement recule. Hier, M. Legault disait avec raison, c'est pas une question, là, savoir qui a raison, l'ego, là, on prend une décision. Parfait. Mais, tu sais, comme exemple, le Centre Bell hier, je peux pas croire qu'on n'aurait pas pu informer les gens qui partaient du lac Saint-Jean pour venir voir un match de hockey. C'est 2 heures avant la partie. Moi, il me semble qu'il y a un minimum de respect pour les citoyens aussi. Je comprends pas trop comment la machine de la vaccination fonctionne. Là, soudainement, on réduit l'écart, le délai, à 3 mois, puis on sait que c'est l'outil. L'outil, là, c'est il y en a 2 gros outils. La vaccination et les contacts limités. Moi, je pense qu'il y a des ratés dans la machine de vaccination, qu'on pourrait en faire plus. Je blâme pas, je constate. Des gens qui sont prêts à aller aider dans les centres de vaccination, des gens que je connais ici qui sont allés se faire vacciner, ils ont des maladies chroniques. Les vaccinateurs disaient, Il y a des plages libres. On pourrait vacciner plus de monde. Qu'est-ce que vous dites aux enseignants du primaire qui vont retourner en classe à la date prévue avec des classes pas totalement vaccinées puis qui se disent « Hey, pourquoi moi j'ai pas le droit maintenant à la troisième dose dans un contexte où le variant se promène à haute vitesse? » C'est une série de questions comme ça, je pense, qu'on a le droit de se poser. Puis comme je dirais à peu près à toutes les étapes de cette pandémie, on chialera pas trop pour l'instant. On va serrer les coudes ensemble, puis on va essayer de vivre à travers ces moments-là. Puis je vous le dis, là, on va avoir du plaisir tantôt dans l'émission. Puis on a de la musique pour vous faire bouger, puis on a le goût d'avoir du plaisir, mais il faut en même temps faire cette partie du travail, c'est de regarder le portrait. Puis je pense à des restaurateurs, tu sais, qui se disent, mais pourquoi, au lieu de réduire la capacité de 50 %, on ne réduit pas le nombre de personnes par table? Pourquoi tu ne dis pas des groupes de quatre, pas plus? Là, on se dit, ouais, mais l'aération, ventilation. M. Legault a prononcé le mot hier, ventilation. Comment c'est temps qu'on allume là-dessus? Ça fait partie des irritants. Tu dis, ça n'a pas l'air à les préoccuper. Quand on parlait de ça, on se faisait quasiment taxer d'être complotiste ou à la solde des magasins, pas des magasins, mais des vendeurs de thermopompes. Je veux juste ajouter un dernier élément concernant la vaccination. Là, on a parlé de nos affaires, on a parlé de notre situation, on a parlé de notre statut vaccinal, on a regardé un peu comment en Europe le virus frappait. Mais le dernier point qui est extrêmement important, et une qui en parle beaucoup avec passion et avec raison, c'est Dr Liu. C'est la fracture vaccinale entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Ce matin, dans Le Monde, il y a un excellent papier où on dit en gros 56 % de la population mondiale a reçu au moins une dose du vaccin et le taux est seulement de 7 % dans les pays à faible revenu, les pays pauvres. Puis on peut penser à les pays africains et à d'autres pays qui n'ont pas reçu tellement de vaccins. Il y a toutes sortes de facteurs. Il y a des facteurs culturels qui font que des gens refusent la vaccination. Il y a des questions d'infrastructure, de logistique. Mais en même temps, il y a un constat qu'on est obligé de faire, c'est que cette pandémie n'est pas un combat local, n'est pas un combat national. C'est un combat planétaire. Puis si on veut retrouver le plus rapidement possible la capacité de voyager sans trop de contraintes, il va falloir regarder ce problème-là. Je sais que le Canada va fournir des doses. Moi, je ne fais pas nécessairement, puis j'en parlais avec le Dr Weiss, l'équation de dire, ben, retardons la troisième dose ici pour aider les pays plus en développement. Pas certain qu'on peut faire ce type d'équation, mais il faut s'assurer d'une plus grande production puis d'une capacité de vaccination, évidemment, dans ces pays. Dans les autres nouvelles, dans Le Devoir, ce matin, on peut lire que des médecins spécialistes ont accepté de participer à des réunions sans être payés, en tout cas certaines réunions, également de formation. Alors, ça fait partie du mandat de l'Institut de la pertinence des actes médicaux, c'est de revoir les actes posés par les médecins spécialistes puis de dire ça, c'est encore bien nécessaire, puis y a-t-il moyen de récupérer des montants d'argent? Alors, on a entrepris, puis les négociations durent depuis un certain temps, donc, on a accepté de réduire la rémunération reçue par les chefs de département des hôpitaux lorsqu'ils assistent à certaines réunions. Puis on parle d'à peu près 13 millions, là, pas loin de 14. Même chose pour les revenus accordés à des médecins qui participent à des formations. Là aussi, on récupère. On n'est pas dans les centaines de millions, là, mais il y a à tout le moins un certain effort pour récupérer de l'argent. Le fameux débat qui a repris concernant la loi sur la laïcité, suite au cas de cet enseignant qui, rappelons-le, n'aurait pas dû être embauché, mais qui l'a été quand même, et qui porte le hijab et à qui on a dit « Ben, vous ne pouvez pas enseigner et vous allez aller faire autre chose. » Là, vous avez trois villes canadiennes qui décident de s'en mêler. Madame Plante a dit « Moi, je ne suis pas ben à l'aise avec le fait que des villes canadiennes se mêlent du débat au Québec. » Donc, il y a Calgary, il y a maintenant le maire de Toronto, puis il y a aussi la ville de Brampton, qui veulent lancer une espèce d'offensive contre la loi 21. Puis comment ils font ça? Ben en donnant de l'argent aux contestataires, en plus de prendre des positions publiques. Et là, on est évidemment dans... C'est une cause type qui n'est pas innocente, là. C'est toujours ce genre d'événement-là, un prof, un cas, qui est récupéré. Et là, les lobbies qui sont contre la loi, puis on peut débattre de la loi. Puis moi, je suis du point de vue qu'il y a différentes façons de voir la laïcité. C'est me faire dire que je suis pas 100% d'accord avec la loi 21, donc je suis contre la laïcité au Québec. C'est pas vrai, ça. Mais il y a des groupes qui se spécialisent, qui font des combats, puis qui récupèrent des événements, puis qui le gonflent. Puis là, tu as les villes qui embarquent là-dedans. Est-ce qu'on verrait des villes comme Québec, Montréal aller défendre un cas d'un franco-ontarien dont les droits sont brimés? Peut-être aussi. Mais vous voyez que le débat prend, disons, une toute autre dimension. Puis une nouvelle très triste, je vais finir là-dessus. Une petite fille de 10 ans en Afghanistan a été assassinée par un tireur taliban. Le Globe and Mail rapporte ça ce matin. Cette petite fille est avec sa famille, est en attente d'une décision du gouvernement fédéral de ramener ces gens-là ici, au Canada. Son père a travaillé pour l'armée canadienne en Afghanistan et on avait approuvé, semble-t-il, leur arrivée au Canada, sauf qu'ils étaient en attente de pouvoir trouver un avion, puis bref, quitter l'Afghanistan. Et d'après ce qu'on comprend, d'après ce qui est rapporté par le Globe and Mail, ça s'est passé le 10 décembre dernier à Kandahar. Il y avait une espèce de point de contrôle, un poste de contrôle, et un des talibans est sorti d'un véhicule, a ouvert le feu. Et malheureusement, la petite fille de 10 ans est décédée. Et ça nous rappelle que beaucoup d'Afghans ont aidé les Canadiens là-bas. Certains ont pu quitter, mais d'autres attendent toujours.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Le variant Omicron frappe à haute vitesse, ce qui amène évidemment Québec à mettre le pied sur le frein avec des mesures qui ont été annoncées hier en début de soirée. On va faire le tour tantôt. Vous connaissez les principales, donc les rassemblements 10 personnes vaccinées max, capacité réduite dans les restaurants, dans les commerces, salles de spectacle, environ 50%. Et également, on reporte le retour à l'école des élèves du secondaire d'une semaine, puis il y a d'autres mesures aussi. Je fais le point avec le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Dr Arruda, bonjour.
Bonjour.
D'abord, là, au moment où on se parle ce matin, il y a combien de cas positifs au Québec?
Ben, hier, il y avait au-dessus de 3800 cas au Québec. Il y a eu 43 000 tests avec un taux de positif 7,9. Donc, on est vraiment dans une augmentation qui est très rapide.
Donc, la courbe est lancée vers le haut. Vous prévoyez que ça peut atteindre quoi comme maximum de cas?
C'est difficile à dire. Je vais vous dire, ça dépend à quelle date, premièrement. Ça va dépendre de l'effet de nos mesures, parce que ce qu'on vit, c'est d'éviter ces pics qu'on a vus dans les projections, où on pouvait atteindre des 10 000 cas, même plus. Donc, notre objectif d'ajouter cette troisième dose-là, mais surtout aussi, actuellement, même la troisième dose ne sera pas suffisante pour empêcher la montée. On est obligé de remettre en place, malheureusement, des mesures populationnelles.
OK. Je vais revenir sur les mesures. Je veux juste comprendre quelque chose. Je regardais la courbe, elle est spectaculaire, d'augmentation du nombre de cas, mais au niveau des hospitalisations, pour l'instant, ça semble beaucoup plus stable.
C'est une très bonne nouvelle. C'est clair. Puis vous savez, M. Arcand, on l'avait dit, que c'était véritablement les hospitalisations qui allaient être notre indicateur, parce qu'on sait qu'une bonne proportion des gens sont quand même protégés contre les hospites, même si le vaccin n'est pas parfait parce qu'il ne protège pas contre la maladie. Je tiens à le dire, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous faire vacciner, parce que ça vous empêche de vous retrouver à l'hôpital et d'être aux soins intensifs. Mais l'enjeu ici, vous l'avez très bien vu, là, effectivement, il y a beaucoup de cas qui augmentent et les hospices commencent à peine à augmenter, même un peu stable. C'est une bonne nouvelle. Mais avec la quantité de personnes qui pourraient être infectées en même temps, même si c'est une petite proportion d'une grosse quantité, on pourra avoir beaucoup plus d'hospitalisations et là mettre en péril notre système de soins. Et on ne veut pas faire du délestage de façon trop importante pour se retrouver à retarder des soins qui sont aussi nécessaires.
L'autre question qui, pour aller dans la foulée de ce que vous dites, là, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation avec évidemment des milliers de cas, mais des milliers de cas de gens avec des symptômes mineurs ou en tout cas qui ne nécessitent pas l'hospitalisation et une certaine stabilité. Puis qu'en bout de ligne, ceux qui risquent de se ramasser à l'hôpital, ce sont presque strictement, pas strictement, mais très majoritairement, les gens qui ne sont pas vaccinés.
Vous avez raison. Puis je le dis encore pour des gens qui hésitaient puis qui peut-être ne sont pas des anti-vaccinants total, la vaccination, c'est ça qui va les sauver. Mais en ce virus-là, en frappant les non-vaccinés de façon beaucoup plus importante, qui sont 16 fois plus de risque de se retrouver à l'hôpital que les autres, il va quand même frapper des gens plus vulnérables, qui ont un système immunitaire qui répond moins bien. Vous savez, il y a des gens qui sont sous traitement de chimiothérapie, on leur a donné des doses supplémentaires. Il y a des personnes, plus on est âgé, plus le risque est important. Donc, chez les gens de 80 ans et plus, ils auront une bonne réponse, mais la réponse, puis heureusement qu'ils ont le vaccin, puis il faut qu'ils le prennent. Mais il y a un petit pourcentage de ces gens-là qui ont une moins bonne réponse, puis là, le virus va les frapper. Je ne sais pas si vous comprenez.
Non, oui.
Ces gens-là pourraient se retrouver à l'hôpital. C'est vraiment un effet de masse.
Okay.
Si on était...
Non, allez-y.
Non, mais je veux dire, c'est pour ça que quelque part, vous savez, c'est un virus qui se nourrit de contact. C'est un virus qui a pris la planète par surprise avec une augmentation de transmissibilité, comme vous avez sûrement vu des courbes qui sont quasiment en ligne droite vers le ciel. C'est vraiment ça là, qui est l'enjeu. Et d'où l'importance de restimuler les plus vulnérables avec une troisième dose. Puis pour le moment, d'aplatir un peu, en tout cas, ou d'éviter l'augmentation trop rapide dans une période qui est difficile aussi, qui est la période où il y a des virus respiratoires, puis où actuellement le système de santé est déjà aussi, même sans COVID-19, est tiré.
Bon, je veux qu'on parle des mesures, là. Une question pour vous. C'est vrai que ce virus, ce variant est arrivé rapidement, puis là, il a comme explosé, mais ça fait quand même quelques jours qu'on peut voir ce qui se passe en Europe, puis qu'on peut laisser clairement entendre que ça s'en vient ici. Ma question, vous ne l'aimerez pas, mais il faut que je vous la pose. Des fois, j'ai eu l'impression, dans les derniers jours, que vous auriez, vous, serré la vis pas mal plus vite, puis que le premier ministre était dans un mode, lui, un peu plus jovialiste, parlant encore de party à 20, puis peut-être même 25, puis là, c'est à 20, puis que finalement... Ma question, là, est-ce que vous auriez annoncé ces mesures-là bien avant?
Celle-ci, non, très honnêtement, parce qu'il faut aussi comprendre que c'est vrai que ça se répand rapidement, mais il faut être capable d'avoir des données sur lesquelles se baser pour justifier ce qu'on est en train de mettre en place. Je suis pas sûr qu'avec pas de cas en augmentation puis la situation actuelle, les gens auraient eu une adhésion à ce qui se passe. Il faut que vous compreniez qu'on demande des sacrifices très importants à plusieurs personnes et l'adhésion est importante. Et il y a un équilibre à ça. Parce que dans les faits, au Québec, on est une des provinces qui a maintenu des mesures beaucoup plus sévères qu'ailleurs. Le 10 personnes ailleurs n'existe pas dans les rassemblements privés. Le masque dans les lieux publics à l'intérieur a été abandonné dans certaines juridictions. Il faut adapter notre intervention au bon moment pour qu'elle soit acceptable. Je suis convaincu, moi, qu'au début décembre, on aurait dit on referme les restaurants.
Non, mais je ne parle même pas du début décembre. Moi, je vous parle, exemple, au début de la semaine, quand vous avez fait votre point de presse avec M. Dubé, qui était mardi, là, sauf erreur,
oui.
Je me suis dit, ben, moi, là, je suis pas un médecin, je suis pas un expert comme vous, mais je voyais la situation en Europe, je me dis, ils vont annoncer des mesures. L'impression que ça donne, sans vous passer une commande, vous aviez comme une pression du PM pour attendre jusqu'à la dernière minute, pour que ça soit vraiment...
Je vais vous dire c'est quoi la pression que j'ai, c'est une pression épidémiologique. C'est véritablement sur les éléments épidémiologiques. Le 7 décembre, on a fait un criblage systématique des cas. Il n'y avait pas d'Omicron au Québec. Fait que commencer à dire, je ne sais pas si vous comprenez, je comprends ce que vous dites et je tiens à vous dire que la réponse, là, est-ce que le chiffre 0, 7, 8, 15, 20, c'est le meilleur? Il n'y a pas d'études scientifiques qui dit ça, c'est de diminuer les contacts au maximum. Et dans mon annonce, ce que j'ai dit, c'est qu'on va jusqu'à 20 maximum. Et idéalement, faites-en moins. Mais les gens ont été fixés sur le 20, qui n'a jamais été appliqué. On est encore à 10, de toute façon. Mais c'est un équilibre. Hein? Moi, je peux faire une recommandation. On discute, on regarde la faisabilité. Et l'adhésion de la population est majeure. Hein? D'un côté, il y a des gens qui qui en ferait plus, qui fermerait tout. On n'est pas dans une bulle fermée, hein, parce que si on veut véritablement éliminer le risque, mais on retourne tous à la maison, est-ce qu'on veut, comme société, revenir à ça? Je pense que la réponse, c'est non. Fait que c'est un équilibre. Moi, je vais vous dire, quand je suis là, même si ma recommandation pourrait être légèrement différente au début, je sais que c'est le gouvernement qui prend des décisions. Et si, et quand je, on annonce quelque chose, je peux vivre avec. C'est ça qu'il faut comprendre.
OK. J'allais dire, est-ce que le gouvernement accepte toujours vos recommandations ou êtes-vous obligé de les modifier parce que le gouvernement vous le demande?
Bien, on fait des recommandations préliminaires. OK, il faut comprendre. Mais le gouvernement prend des décisions, on discute. Je dois aussi, moi, consulter les autres ministères sur la faisabilité des choses, etc. Il faut se dire, parce que c'est beau de dire on devrait faire ça, mais c'est-tu faisable? Est-ce que c'est acceptable? Comment les gens vont recevoir ça? Est-ce qu'on va créer plus de non-adhésion? Donc, il y a véritablement une discussion qui est faite, parce que surtout dans les choses où qui sont pas aussi prouvées que la vaccination, par exemple. Ça, la vaccination, les gens vont faire ce qu'on va dire, ça c'est clair. Mais le choix des interventions populationnelles qui ont des impacts majeurs dans d'autres secteurs, et je tiens à vous dire, l'être humain, ce n'est pas seulement une personne qui va se faire infecter, c'est aussi une personne qui a des enjeux de santé mentale. Les effets collatéraux qu'on crée quand on isole les enfants sont majeurs. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Moi, je ne suis pas seulement un gars qui combat les maladies infectieuses. Je veux une santé de population la meilleure, puis on essaye à partir de jugements de tout le monde, puis même à l'intérieur de mes directeurs, il y en a qui pourraient prendre plus tolérer de risques, moins de risques. Il faut prendre une décision qui soit le plus consensuelle possible.
OK. Je vous pose une question. Dans les mesures, on a décidé de repousser d'une semaine le retour en classe pour les élèves du secondaire. Pour des raisons qu'on comprend très bien, parce que c'est plus compliqué avec des enfants plus jeunes, on maintient la date. Moi, j'ai des professeurs qui, et je vous résume ça, Dr. Arruda, qui disent, là, on se retrouve devant des classes où la vaccination a commencé. Il y a un variant qui déferle dans la société. Est-ce que les profs ne deviennent pas une clientèle à prioriser pour la troisième dose de la vaccination?
Ils vont l'être, juste pour que vous compreniez, des gens comme ça qui vont risquer d'être exposés au Omicron. Il y en a plein dans notre société. Heureusement, la majorité des profs, à moins que les profs aient des conditions qui les pose à risque, ils peuvent se faire vacciner, sont des maladies chroniques ou autres. La bonne nouvelle, puis vous l'avez dit vous-même tantôt, c'est qu'on n'observe pas d'augmentation de cas d'hospitalisation. Mais je veux juste vous dire que M. Paris va mettre la pédale à l'accélérateur très fort pour aller chercher le maximum de clientèle le plus rapidement possible.
Parce que je comprends que c'est pas la seule clé, puis qu'il y a des gens vaccinés qui vont se retrouver quand même avec la COVID, puis avec le variant. Puis je sais que c'est pas vous qui êtes en charge de la logistique, mais bien des Québécois trouvent que la machine de vaccination tourne pas assez vite, que dans la première partie de l'opération, c'était impeccable. Là, on dirait qu'on a pris une vitesse ordinaire, qu'on pourrait vacciner beaucoup de gens plus rapidement. Les gens que je connais qui vont se faire vacciner disent, les vaccinateurs nous le disent, on pourrait en faire plus. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui marche pas, qu'on pourrait en faire beaucoup plus, vacciner plus vite, plus de monde?
Ben moi, je pense que vous allez voir au cours des prochaines semaines, puis je fais confiance à M. Paré d'être très ingénieux, puis d'aller chercher toutes les possibilités pour être capable. Il faut comprendre que le contexte du printemps, on était dans des lockdowns, il y avait plein de ressources qui étaient disponibles. Là, les activités ont repris. On n'a pas délesté parce qu'en même temps, il faut continuer à opérer les gens. Il faut traiter les gens qui ont des infarctus dans les soins intensifs. Fait que c'est aussi, il faut prendre ça en considération. Mais je pense que on va voir, tout comme le Omicron, une accélération très importante de la capacité de vacciner au Québec sous peu.
Il reste quoi dans votre coffre à outils comme mesure à prendre si ça se détériore et que ça va plus mal? Il reste le lockdown, le confinement puis le couvre-feu?
Bon, il y a d'autres étapes supplémentaires. Il y a d'autres étapes supplémentaires qui peuvent être faites, mais c'est pour ça qu'on vous dit que ce qu'il faudrait faire tout le monde ensemble, c'est de vous faire vacciner. Si vous ne l'êtes pas du tout, on va accélérer pour la troisième dose, diminuer les contacts dans toutes les sphères de sa vie pour essayer d'éviter effectivement ce lockdown. Mais comme je le dis, je ne sais pas ce que demain va faire. On va regarder ce qui se passe dans le monde en espérant que nos cas augmentent, mais qu'il n'y ait pas tellement d'impact sur les hospitalisations. Et ça, on part bien avec ça et les soins intensifs pour qu'on puisse revenir à quelque chose de plus normal.
Puis j'insiste là-dessus parce que beaucoup d'experts insistent. On parle de la vaccination, mais il y a tout l'aspect de la ventilation, surtout en hiver dans des lieux intérieurs. Là.
Bien, on recommande la ventilation à la maison. Là, pour ceux qui n'ont pas de système de ventilation avec sortie d'air à l'extérieur ou de circulation, d'aérer régulièrement la pièce, surtout si beaucoup de gens à l'intérieur et particulièrement si ce sont des gens qui ne sont pas de la maison, là, ça, c'est une bonne chose.
Docteur Arruda, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous remercie puis je vous souhaite un beau temps des fêtes, un peu plus intime que prévu, mais rempli d'amour.
Merci, Docteur Arruda. Bonne journée.
Au revoir.
Docteur Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique. On va poursuivre tantôt. Le docteur Weiss sera avec nous.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bénédicte est avec nous. Il y a eu accident, et Marc vient de donner le détail, là, d'Équerry, près de Sherbrooke. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait en tout cas qu'il y a deux personnes décédées.
Oui, et les images qu'on a pu voir, c'est troublant. Il reste pratiquement plus rien de la voiture. Ce qu'on a donné comme détail pour l'instant du côté du Bureau des enquêtes indépendantes, c'est qu'autour de 2h20, il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui auraient essayé d'intercepter un véhicule qui circulait sur l'autoroute 15 Sud. Le conducteur du véhicule aurait refusé de s'immobiliser, serait parti, donc les policiers qui l'auraient perdu de vue un petit peu avant la sortie pour la rue Sherbrooke et finalement la voiture qui a été retrouvée gravement accidentée sur l'autoroute 15 Nord près de la rue Sherbrooke et on a constaté le décès des deux occupants du véhicule, deux jeunes hommes âgés de 16 ans et de 18 ans. Donc ça a été constaté. 5 enquêteurs du BEI qui sont en direction. C'est l'information pour l'instant qu'on donne, mais on le voit, là, l'impact a été violent. Honnêtement, il ne reste pratiquement plus rien de la voiture.
OK, alors on se retrouve tantôt. Bon, j'ai souvent parlé avec Dr Weiss depuis cette pandémie, puis je me suis dit qu'à la veille de ce congé, c'est important de revenir, même si on peut poser 12 fois la même question. Ce sont des rappels pour que, surtout après l'annonce des mesures hier, les gens, je pense, ont besoin d'entendre. Il a accepté d'être avec nous. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, je veux revenir sur, bien sûr, le variant. Quand vous regardez la rapidité avec laquelle ce variant-là génère des cas, quelle lecture vous faites? Avez-vous l'impression que là, c'est une courbe qui va être exponentielle pour les prochains jours, les prochaines semaines?
Tout à fait, parce que vous regardez le nombre de cas. Le nombre de cas a augmenté très rapidement dans les pays qui nous ont précédés. C'est une courbe aussi, une fois qu'elle est partie, vous pouvez pas l'arrêter et la casser net. Hein. Vous voyez que quand on était à 700, on passait à 1300, on montait à 1800 et ça se faisait jour après jour. Donc quand on nous dit il y a 3700 cas au Québec, c'est clair que demain matin on n'aura pas 4000 cas, ça va continuer de monter de façon relativement importante. Alors cette courbe-là, elle va prendre un certain temps à être cassée et ça va prendre un certain nombre de mesures à l'a cassé. Et c'est ce qui s'est passé ailleurs. Quand on a vu l'apparition du variant Omicron en Afrique du Sud, on a vu que dans la région de Johannesburg, on le répète encore, et ça fait déjà plusieurs semaines que c'est connu, le variant a littéralement remplacé le variant Delta dans l'espace de à peu près 2 semaines. Et ça nous montre la transmissibilité et l'adaptabilité de ce variant-là, c'est-à-dire sa compétition, le fait d'être compétitif et de faire le travail qu'il doit faire, parce que son objectif pour le variant, c'est de se transmettre beaucoup plus. L'avantage peut-être, et on peut discuter des données préliminaires là-dessus, c'est sa virulence. Et est-ce que le variant Omicron est pire que les autres? Définitivement non. Peut-être moins pire. Alors là, il y a encore des données contradictoires selon les pays, mais la plus grosse étude faite en Afrique du Sud a montré qu'il semblait être moins problématique que le Delta en termes de virulence.
Donc, c'est un variant qui se propage rapidement, mais qui ne serait pas à première vue plus dommageable, avec plus d'effets graves sur les patients que les autres variants.
C'est-à-dire, ce qu'il faut toujours regarder, il y a deux choses avec la COVID. Il y a l'aspect aigu, ça veut dire combien de gens vont être très malades, vont finir à l'hôpital ou aux soins intensifs et donc vont utiliser les ressources hospitalières. Cas par cas, l'Omicron semble être moins problématique que le Delta. Le problème de l'Omicron, c'est que premièrement, le nombre de cas étant très élevé, même si vous avez 1% de 100 000, Ben, c'est peut-être plus que 5% de 10 000. Alors, c'est une question aussi de nombre. Si vous avez un nombre très, très élevé de cas, vous risquez d'avoir plus de gens qui ont des complications. Mais cas par cas, il semble être moins problématique que le Delta. L'autre problème qu'on a, je vous dirais, avec l'Omicron, c'est la diminution de l'efficacité de deux doses vaccinales pour prévenir l'infection, comparé à ce qu'on avait, évidemment, avec les variants précédents. Et donc, ça fait qu'on voit un virus qui se propage, même dans une population de vaccinés, mais il faut bien le souligner, les gens vaccinés sont quand même protégés, c'est contre la maladie sévère, contre l'hospitalisation, et beaucoup de ces cas-là, même s'ils sont très nombreux, sont des cas chez des gens pas vaccinés, certains sont aussi des jeunes enfants, donc beaucoup moins malades, mais quand ça arrive chez des gens vaccinés doublement, les gens sont, pour l'immense majorité d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux, peu malades.
D'où l'importance d'accélérer la cadence de la troisième dose et d'élargir ça le plus rapidement possible à un maximum de gens possible.
Ben, tout à fait, parce que en réalité, le variant Omicron, la bataille pour l'empêcher d'arriver au Québec est finie. Là. C'est clair que on a quasiment aujourd'hui 50% de nos souches au Québec qui sont des variants Omicron. Donc ça veut dire que, et puis c'était quasiment 0% il y a 3-4 semaines. Donc ça veut dire que d'ici lundi ou mardi, le variant Omicron risque d'être le variant dominant au Québec. Donc ce que ça signifie, c'est qu'on s'en débarrassera pas. Par contre, on peut prendre des mesures rapides pour en limiter, je vous dirais, la propagation et surtout l'impact. Mais je veux quand même, il faut quand même remettre les choses en perspective et il faut revoir où est-ce qu'on était en la même période en 2020. C'est-à-dire, il faut pas que les gens aient l'impression qu'on a fait 2021 pour rien. Tous les efforts qui ont été faits, la double vaccination, le fait, par exemple, d'avoir mis des mesures en place à certains moments. Tout ça, mais surtout la campagne de vaccination de la population québécoise, et les Québécois ont répondu à cette campagne de vaccination dans leur immense majorité, nous permettent aujourd'hui d'avoir une société qui est relativement ouverte et qui est où on risque pas d'être débordé comme on l'a été durant la première et la deuxième vague. N'oubliez pas que quand on avait l'an dernier pas de vaccin ou très peu de vaccins à cette période-ci, on est allé en confinement, on est allé en couvre-feu rapidement et on faisait pas grand-chose alors qu'on n'est pas du tout rendu à cette étape-là. Même si on met des restrictions, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu dans le passé. Puis le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu lors de la deuxième vague, par exemple. Alors, il y a un effet important de la vaccination et il ne faut pas penser que les gens soient découragés par rapport à ça. Mais oui, au Québec, on est, je pense, la province ou une des provinces avec le plus faible taux de doses, on va dire, booster qui ont été données pour la troisième dose. Et il y a une nécessité impérieuse d'accélérer cet aspect-là. Je pense qu'on s'est démobilisé et on a perdu notre capacité de mobilisation de vaccination trop tôt et on n'a pas été capable d'avoir cette espèce de remobilisation rapide pour pouvoir réadministrer à tout le monde sa troisième dose de vaccin, puisque maintenant le problème, même si ça va monter dans les prochaines semaines, c'était un problème logistique. Hein, il fallait réorganiser, si vous voulez, les centres de vaccination, ouvrir plus, etc., avoir plus de ressources.
Dr Weiss, merci beaucoup et bon congé du temps des fêtes.
Vous aussi, et puis il faut dire aux gens de ne pas se décourager, on est sur la bonne voie.
Très bien, message entendu.
Au revoir.
Merci.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler justement de l'impact, parce que ça arrive à un moment où c'est une fin d'année, tout le monde est assez fatigué. Les parents ont eu bien des enjeux avec les enfants, puis c'est la période de Noël, puis là, tu te fais dire, ben il y a un variant qui s'invite au party, puis qui risque de faire un nombre élevé de cas. Catherine Raymond est avec nous, elle est chercheuse au Centre d'études sur le stress humain du Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Madame Raymond, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous l'impression que les gens qui regardent ça, là, qui étaient dans leur salon hier soir, sont devenus un peu plus anxieux, un peu plus en colère, un peu plus en maudit?
Oui, c'est fort possible. On sait que toute l'imprévisibilité qui est associée à la situation en ce moment, ça peut être particulièrement difficile pour le cerveau. Et donc, on va voir certainement certains effets sur le stress au cours du temps des fêtes, autant chez les parents que chez les non-parents.
D'abord, comment je détecte ça, que je suis plus stressé ou que mon conjoint, ma conjointe a l'air plus stressé? C'est quoi les indicateurs?
En général, on a tendance à définir le stress comme étant quelque chose de négatif. Hein? Mais il faut se rappeler que quand on est stressé, c'est notre cerveau et notre corps qui essaient de nous aider à nous adapter à une situation. Et pour ce faire, il va amener ce qu'on appelle la sécrétion d'hormones de stress. Et ça va nous donner plusieurs signes physiques. Fait que, par exemple, on peut avoir des maux de ventre, des frissons, un battement cardiaque qui est accéléré. Et ça peut amener aussi des signes psychologiques, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, des colères spontanées, de l'insomnie, une certaine irritabilité, une humeur qui est plus négative.
OK, mais on est quand même dans un contexte un peu différent, là, pour ne pas dire exceptionnel. C'est une pandémie, ça va faire 2 ans que ça dure avec des hauts, des bas, des périodes de confinement, des périodes où on peut retrouver une certaine normalité. Là, les gens arrivent à un moment où ils sont fatigués de ça. Le premier ministre Legault disait hier, « je suis tanné comme vous ».
Oui, on sent un certain épuisement à l'heure actuelle qui atteint pas nécessairement des niveaux cliniques chez la majorité des gens. Okay? Donc ici, je parle pas d'un épuisement professionnel, mais un certain épuisement du système de stress en ce sens où, à force de s'adapter pour la même situation, le cerveau finit par envoyer un message d'épuisement au niveau du corps parce qu'on a une espèce d'impuissance acquise. On se dit, mon Dieu, mais j'arrête pas de mobiliser cette énergie-là. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose, hein? Ou bien je suis pas capable de modifier la situation qui est en cours? Donc, on peut sentir un certain épuisement à l'heure actuelle. Je pense que la meilleure solution dans tout ça, c'est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler au détriment de ce qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple une pandémie. Hein? On a très peu de contrôle là-dessus, mais on a un contrôle sur ce qu'on peut appliquer dans le temps des fêtes, c'est-à-dire se réunir avec les gens qui sont très proches de nous, donc en suivant les règles établies, bien entendu, et essayer d'adapter un petit peu notre quotidien pour faire face à cette situation-là.
En espérant que ça ne sera pas trop long.
En espérant que ce ne sera pas trop long.
Merci, bonne journée à vous.
Merci.
Catherine Raymond, qui est chercheuse au Centre d'études sur le stress humain.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Mesdames, messieurs, on ne peut pas terminer cette semaine de festivité à l'antenne.
Sans boire. Non, excusez.
Non, ça, c'est pas ça qu'il faut dire. Donc, nous avons invité notre ami Fabien Cloutier, qui est un anthropologue spécialisé notamment sur les mœurs et coutumes du plateau Mont-Royal, pour justement partager ce moment de fin d'année. Et il veut s'exprimer sur un certain nombre de questions d'actualité. Fabien est en ligne avec nous. Bonjour.
Salut, mon Paul. Écoute, Paul, je dois te le dire, là, j'ai appris la nouvelle que tu iras pas te faire bronzer le petit genou blanc dans le sud. Tu pourras pas t'adonner à ta tradition préférée, c'est-à-dire gagner un chapeau de paille dans un concours de flat dans une piscine de tout inclus. Le beau Paul, la bédaine bien rouge, le costume de bain un peu trop descendu, le corps de la craque au grand vent en train de chanter « Oh, let the dogs out! »
Ça, c'est mon Paul.
J'ai des images.
Ça sera pas pour cette année.
Non, hein? Non.
Hey, tous ces sacrifices-là, parce que peut-être il y a un gars qui a pas pu s'empêcher de manger du pangolin. Du pangolin, là, ça a l'air de goûter le portefeuille. C'est comme la chauve-souris, ça. C'est quoi que ça goûte? Eh bien, prenez une croquée dans votre ceinture, c'est ça que ça goûte. 30 secondes aussi, mon beau Paul, pour parler de la marquise de la rue Saint-Hubert à Montréal, dont la pente est pas assez prononcée. Juste dire, moi, je me suis bâti une cache dans le bois pour la chasse. J'ai fait un toit en pente. Trouver n'importe quel chasseur, il peut se préoccuper plus du nombre de pointes sur un panache de chevreuil que du nombre de dents qu'il y a dans la gueule. Ben, il a beau se bâtir dans le fond du bois une cache en reste de 2x4, puis en bois de palette, même lui, il est au courant que quand tu bâtis quelque chose qui doit passer à travers l'hiver, faut que tu fasses une pente qui a de l'allure. Donc, la prochaine fois, ils pourront peut-être y demander conseil. Sinon, Paul, j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. J'ai réglé ça avec ton entourage. Je suis rendu ton gérant.
Ah bon? Ah bon? bon.
Tu vas devenir okay. riche.
Je vais m'occuper de ton image, puis tu vas voir que ta carrière, là, ça va prendre une autre couleur en 2022.
Elle va décoller.
Ça va décoller. Janvier, ça part fort. Tu vas faire le blé d'Inde dans Chanteur masqué. Et là, pour sceller sa grande réconciliation avec TVA, tu vas être contre Luc Lavoie, qui est supposé faire une poule, mais on ne sait pas encore qui va accepter d'enfiler le superbe costume du morpion. La promo, ça va être super. Le blé d'Inde sera-t-il mangé par la poule? Le morpion va se jeter sur la poule ou dans les petits cheveux du blé d'Inde? Grosse TV, OK? Et tu vas chanter la chanson de Paolo Noël, « Je m'appelle Paulette, je suis une tapette de la rue Sanguinette ». Et là, le monde, ça va capoter. Ça n'a pas de bon sens de chanter ça. On n'a pas eu de traumavertissement. Paul Arcand doit s'expliquer. Et là, nous autres, on sort puis on dit, justement, Arcand va être à Arcand demain matin. Tu te reçois toi-même à ton émission de radio pour t'auto-interviewer sur ton choix controversé. Show business, OK? Et oui. Tu vas faire plein de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux. Tu finis ça le soir à semaine des 4 juillet en culotte de cuir, dans une piscine de plumes multicolores. Show business. Et là, en plus de ça, mon Paul, comme gérant, je t'ai trouvé une nouvelle émission de télé à animer. Ça va s'appeler « On jase et on braille ». Avec Polo. Concept, on y va simple, là. Il y a un invité qui vient déposer sa tête sur ton chest, tu le flattes, puis il braille. La semaine 1, tu reçois ton collègue Alain Crête dans une émission très touchante où Alain va avouer qu'il avait fondé beaucoup d'espoir dans le fait de se jouer lui-même dans l'enseignante. Tu joues Alain Crête dans toutes les saisons de l'enseignante pendant 20 ans. Tu joues Alain Crête dans le film l'enseignante. Ça débouche sur rien à part d'aller chanter Gros Jambon ou en direct de l'univers de MC Gilles. Ah non, ça va pleurer dans les chaumières quand Alain va lancer « Il n'y a pas de place nulle part pour Alain Crête du monde entier. » Puis tu le sais, Paul, là, un gérant, il faut que ça soit honnête avec son poulain. Je te le dis, on ne sait pas grand-chose sur toi, Paul. Tu t'ouvres peu. Les émotions, c'est pas juste régler les problèmes techniques avant que je décolle la peinture sur les murs. En pensant, là, ceux qui ont assisté à la colère de Paul, ses pépins techniques l'ont dit, Paul est viré vert, vert de colère, on aurait dit Hulk. Mais depuis, il a retrouvé son sourire, il est passé de Hulk à Shrek. Bon, c'est peut-être pas le plus beau compliment là, de se faire appeler Shrek, mais je suis ton gérant, je peux tout te dire, oui. C'est pour ton bien. Fait que bonnes vacances, mon Paul, profite-en bien. J'ai très hâte de vous retrouver aussi toute l'équipe en janvier. Je vais être là un peu plus souvent. De temps en temps, quand ça donne, comme on dit, mais ça va être un plaisir.
Merci beaucoup, Fabien. Bon temps des fêtes.
Hey, merci à vous tous.
C'est mon gérant. Et non, il m'a fait de la surprise. Je ne savais même pas qu'il était devenu mon gérant.
C'est ça, l'entrevue de 9h15, Paul à Paul.
Ça va être écœurant. On va être obligé de me donner mes questions pour pouvoir y répondre. Incroyable.
L'essentiel de Paul Arcand.